Vous écoutez France Culture. Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
C'est maintenant qu'il nous faut avoir le courage de penser. Telle est la mission que se donne et que nous donne notre invité de ce matin en préambule de son livre « Quelques réflexions blasphématoires, islam et modernité » paru au début du mois de mai chez Jacqueline Chambon. Slavoj Žižek, bonjour.
Bonjour.
C'est comme ça qu'il faut dire, Slavoj Žižek.
Oui.
Ça va?
Ça me fait peur parce que d'habitude
moi
on
aussi.
Prononce mon nom d'une façon erronée et je deviens paranoïaque quand on le prononce correctement.
Ouais, ouais. Mais... Appelez-vous Voinchet et vous en direz quelque chose. Donc Slavoj Žižek, on ne vous présente plus. On dit que vous êtes le roi, le fer de lance, l'empereur, le pape de la pop philosophie qui marie Marx à Matrix ou Hitchcock à Hegel. Vous êtes aussi psychanalyste et puis vous étiez d'ailleurs en France parce que vous étiez notamment l'invité d'Alain Badiou lundi soir à Aubervilliers dans le cadre du séminaire qu'il anime au théâtre de la Commune. Et il a été question aussi de votre grande œuvre, fruit de 10 ans de travaux, qui paraît le 8 juin chez Fayard, intitulée « Moins que rien, Hegel et l'ombre du matérialisme dialectique », livre justement préfacé par Alain Badiou. Alors, « Moins que rien », ça pourrait être une réponse prononcée par les déclinistes aux questions posées sur l'Europe et l'Union européenne en ce moment, dans l'actualité. Que veut l'Europe, pour reprendre le titre d'un de vos livres? Moins que rien. Quel bénéfice retire-t-on aujourd'hui de nos démocraties? Moins que rien. À quoi ressemblent les idéaux communs? Même réponse, peut-être moins que rien. Ce pourrait être également la réponse aux questions posées aux musulmans modérés si on leur demandait quelle place laisse-t-on dans les débats sur l'islam ou encore que comprennent les extrémistes à leur religion. Nous verrons que peut-être il pourrait répondre, qui sait, avec vous, moins que rien. Encore que nous verrons ce qu'il en est de ces questions sur la religion. En deuxième partie, avec Fethi Ben Slama, mais qui est déjà avec nous. Bonjour Fethi Ben Slama, philosophe et psychanalyste. Et puis, cité très largement dans le petit essai de Slavoj Žižek, quelques réflexions blasphématoires, islam et modernité. Mais nous gardons ça pour la deuxième partie débat, qui sera introduite par Brice Couturier. Peut-être un mot tout de même, puisque je sais que vous aimez bien commenter, au fond, tout ce qui n'est pas forcément très pur pour un philosophe. Oui, vous ne lésinez pas sur la question de la musique, du cinéma, Slavoj Žižek, la question de l'actualité, du temps présent. Tenez, je vous vois et j'ai l'impression tout d'un coup que je suis devant un joueur de foot. Vous avez un polo noir avec le Z de Žižek sur le cœur et derrière, dans le dos, sur les omoplates, un immense 1. Avez-vous déjà écrit sur le foot? Vous me voyez venir, Slavoj Žižek.
Je dois vous décevoir ici. Il y a quelque chose de pathologique là. J'ai une indifférence totale. Pas seulement vers le football, mais même vers le sport. Par exemple, pour moi, faire le ski, c'est le non-sens dans la forme pure. On ascente une montagne pour descendre. Pourquoi ne pas rester là-bas et lire un bon livre?
Attendez, Sisyphe l'a fait avant, hein?
Quoi?
Sisyphe l'a fait avant.
Oui, mais je ne suis pas un partisan d'Albert Camus. Donc non, je prétends rester là-bas et lire un bon livre ou écouter une belle musique. Même des musiques arabes, par exemple, ça peut vous surprendre. Mais comment ça prononce dans les différents pays, on le prononce différemment, cette grande chanteuse égyptienne Om Kalthoum, oui, ouais. c'est formidable, ça. Bon. C'est mieux Om Kalthoum que tous les matchs de football, malheureusement.
Slavoj Žižek, avoir le courage de penser maintenant, et vous écrivez aussi « Penser ». Et au fond, il faut penser, il faut faire attention parce que penser la tête froide, dites-vous, ne fait que normaliser une situation. Penser signifie dépasser le pathos. Mais vous voyez, nous sommes noyés dans une actualité, je faisais référence au football, dans l'actualité FIFA, tout d'un coup des scandales de corruption qui se font jour alors que ça fait des années que certains tiraient la sonnette d'alarme. Est-ce que vous avez un commentaire sur, au fond, cette fameuse démission de Monsieur Blatter 4 jours après sa réélection et l'émoi qu'il y a autour du football où tout d'un coup on découvrirait que ce monde-là, pour qui s'est acheté des Coupes du Monde, ça et là, serait corrompu, Slavoj Žižek.
Non, mais je ne...
Misère de nos temps modernes supplémentaires.
Oui, mais je ne vois pas où est la surprise. Bien sûr, la corruption est totale dans ces cercles. Mais c'est pas seulement là. Je crois que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est une certaine dose disons, matérialisme vulgaire. C'est-à-dire, même dans les grandes guerres, par exemple, dans la Afrique centrale, la République, il y a une guerre civile, on nous dit où c'est les musulmans contre les chrétiens. Mais c'est tout à fait clair, on ne peut pas le lire dans nos médias ce qui se passe vraiment. On a découvert le pétrole au nord, et pour bloquer l'avancée chinoise, France s'est mobilisée, donc on doit... toujours tenir compte que derrière les grands conflits idéologiques, je ne dis pas que la religion c'est pas important, c'est important, mais quand c'est mobilisé dans une guerre, il y a quand même des intérêts très brutaux, économiques, etc., etc. Donc, pour moi, je ne rejette pas football. Je sais que c'est, disons, une espèce de mobilisation populaire avec des enjeux qui peuvent même être émancipateur, mais toujours.
Et que ne déteste pas les intellectuels, ça va exiger que nombre de
personnes. Non, mais c'est un snobisme
italien.
Intellectuel. C'est un vieux truc des intellectuels, je ne l'aime pas. Que on, pour démontrer son ouverture au peuple, on dit oui, je sais pas seulement que je lis de grands livres, je joue aussi football, etc., etc.
Ah oui, vous n'y croyez pas?
Non. Bon,
c'est un snobisme pire.
C'est le pire des intellectuels, c'est de jouer cette pseudo-popularité. Non, bon. Je suis un genre comme des autres. Non, je suis un fou, je ne suis pas un genre comme des autres.
On pourrait vous reprocher d'être très snob, vous, en déclarant votre amour constamment pour le cinéma, la comédie américaine et tout ce que vous en tirez.
Oui, mais.
Votre football à vous, c'est le cinéma.
Non, mais je crois quand même dans le cinéma que je pousse les choses un peu jusqu'à l'extrême. Non, par exemple, c'est facile d'être pour le football ou quoi, mais pour des films très problématiques.
Vous connaissez, et on va faire un lien, vous connaissez le film des Monty Python, qui mélange football et cinéma, football et philosophie.
Non, mais ce que je aime, oui, les Monty Python, c'est formidable.
Écoutez ça, écoutez cet extrait du match, le match des philosophes, c'est pour vous spécialement,
ah,
des Monty Python. Nietzsche se prend son troisième carton en quatre matchs et Karl Marx s'échauffe avant d'entrer sur le terrain. Le commentateur se demande s'il va remplacer Jasper Hegel ou Schopenhauer et c'est finalement Wittgenstein qui sort. Le commentateur s'enflamme. Karl Marx va-t-il pouvoir donner un souffle à l'attaque allemande?
As you can see, Nietzsche has just been booked for arguing with the referee. He accused Confucius of having no free will and Confucius, he say, name go in book. And this is Nietzsche's third booking in four games. And who's that? It's Karl Marx. Karl Marx is warming up. It looks as though there's going to be a substitution on the German side. Obviously, manager Martin Luther has decided on all-out attackers. Indeed, he must with only 2 minutes of the match to go. But the big question is, who is he going to replace? Who's going to come off? It could be Jaspers, Hegel, or Schopenhauer. But it's Wittgenstein, who saw his auntie only last week. And here's Marx. Let's see if he can put some life into this German attack. Evidently not.
Karl Marx va-t-il pouvoir donner un souffle à l'attaque allemande? Manifestement non, dommage, dans les Monty Python, le match des philosophes.
Mais dans mon esprit stalinien, je notais l'absence de Hegel là, non? Non, mais sérieusement, ce que je aime vraiment chez Monty Python, c'est par exemple dans quelques de leurs films, cette idée dans un de leurs films que je aime, The Meaning of Life. Il y a une scène formidable, l'éducation sexuelle, qui est présentée comme la chose la plus oppressive. L'instituteur demande un jeune garçon, dis-moi, quelles sont les trois façons d'irriter la femme, la vagine, et il répond, je ne sais pas. Il lui dit, qu'est-ce que tu as fait hier après-midi au lieu de pratiquer ça, etc. Donc ça, c'est une chose très profonde. Parce que c'est ça notre vérité, que le jouir sexuel, c'est un devoir obscène. C'est pourquoi ce qu'on doit faire, c'est précisément la leçon de l'analyse, de psychanalyse aujourd'hui, c'est pas on est opprimé, on doit nous libérer de toutes les prohibitions pour jouir. Non, jouir lui-même, c'est un devoir obscène aujourd'hui. La leçon de psychanalyse, c'est vous n'êtes pas obligé de jouir.
C'est
gagner cette différence.
C'est-à-dire,
à ce niveau, je aime simplement Monty Python, déjà avant 30 ans.
Ouais. C'est comme fumer. C'est devenu obscène de fumer aujourd'hui. Vous avez...
Ah, mais là, j'ai toute une théorie aussi. C'est tellement hypocrite. Mais je ne fume pas. On doit pénaliser les compagnies, je suis d'accord. Mais c'est clair que ce qu'il y a derrière cette obsession par le fumer, c'est, pour moi, c'est précisément, disons, l'expression de notre attitude individualiste paranoïaque. C'est la peur du prochain, précisément au sens biblique. Fumer, ça veut dire l'autre s'approche trop de nous avec un excès de jouir. C'est pourquoi, si je peux vous dire très brièvement, je trouve ça totalement obscène. Récemment, les grandes compagnies américaines aériennes ont toutes interdit même les cigarettes électroniques.
Et
quelle est la justification? C'est pas, on ne le sait pas si c'est dangereux ou pas. C'est une pédagogie pure. On dit que Quand on utilise la cigarette électronique en public, on démontre publiquement la faiblesse de la volonté. Et ça, c'est pas bon du point de vue d'influence morale. Je trouve ça complètement obscène. Là, c'est le côté noir, je crois, de notre libéralisme permissif. D'un côté, on nous dit, oui, on doit être permissif, mais dans le political correctness, pratiquement tout est interdit à la fin.
Alors, Slavoj Žižek, justement, vous voulez d'aborder notamment un des sujets que vous traitez dans votre livre, quelques réflexions blasphématoires, Islam et modernité, mais on peut l'appliquer au fond, et faites-vous cette lecture-là au monde contemporain tel que nous le vivons, notre monde occidental, à savoir que le libéralisme montre plus que jamais de partout, toutes ces failles, toutes ces fuites, il est comme un bateau qui n'en finit pas de croire qu'il se dirige comme il veut, mais qui au fond coule, fuit de toutes parts.
Oui, non, bien sûr, au fond, j'aime la liberté, etc. Mais les choses sont toujours ambiguës là. Prenons un autre terme politiquement correct, en anglais, harassment, harcèlement. Bien sûr, quand il y a une exploitation sexuelle, etc., je suis contre. Mais de nouveau, au niveau de la vie quotidienne, quand on porte plainte harassment, c'est de nouveau, c'est une distance paranoïque vers le prochain. Quand l'autre s'approche trop, par exemple, à moi, ça se passe tout le temps avec mon approche plus ouverte, européenne, aux États-Unis. Une fois, j'ai parlé avec une belle femme, je l'ai regardée un petit moment trop loin dans ses yeux, j'ai été immédiatement accusé de viol visuel. J'ai utilisé quelques mots vulgaires, on m'a dit c'est le viol langagier, etc. Je trouve ça assez triste. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, c'est un de mes thèses que je développe dans le livre. Je crois que une des façons de combattre vraiment le racisme, ce sont des vices racistes eux-mêmes. Quand je visite quelques pays, quand on le fait avec respect ou quel intérêt votre culture, ça c'est rien. On doit échanger un petit d'obscénité, on a le contact immédiatement. Et je le fais
c'est
avec
tout le sens. C'est le sens de votre livre sur les blagues.
Quoi?
C'est le sens de votre livre sur les blagues.
Oui.
Au fond, ma philosophie, mes blagues.
Oui.
La blague, elle participe de ça. Quand on se moque avec une blague de quelqu'un.
On doit seulement, pour ne pas être raciste, inclure ma position même. Par exemple, mon modèle, c'est la ex-Yougoslavie. Chaque pays a été identifié par une figure très raciale. Nous, Slovènes, sommes avares, les Monténégrins, laideurs, etc. Mais on a, avec une fierté, assumé cette identification, se moquant
de vous-même.
De vous-même, et ça a fonctionné vraiment. Une preuve négative, au début des années 80, quand les passions nationales ont vraiment fait une montée, ces types de blagues ont disparu. Parce que c'est vraiment une dimension émancipatoire, là.
Et le fait que ce type de blague ait disparu, pour vous, encore une fois, est-ce que c'est un signe important de quelque chose qui ne va plus dans nos démocraties occidentales et modernes?
Bon, je ne veux pas...
Ce fameux principe, le principe de précaution qui en recouvre ça, entre autres.
Non,
faut pas dire du mal d'eux.
Pour moi, c'est avec ce libéralisme politiquement correct, etc., il y a vraiment une infantilisation de notre vie quotidienne. Par exemple, récemment, un ami m'a envoyé un petit texte publié par quelques comités pour la tolérance à l'Université Columbia où une femme a porté plainte dans une classe où on a fait des études de Ovide, métamorphose, là où il y a la description d'une scène sexuelle violente, et la femme dit qu'elle était totalement traumatisée par ça, et maintenant ce comité demande que même les œuvres classiques doivent être accompagnées par ce qu'on appelle en anglais « trigger warning ». Qu'on sait d'avance qu'il y a une scène sensible pour que les gens ne soient pas choqués. Et c'est ça ce qui me frappe. D'un côté, il y a plus de violence que jamais. C'est cette obscénité totale. États-Unis, les grands pays, on discute ouvertement de la torture, etc. Et de l'autre côté, cette sensitivité. Et on peut voir extrême, on peut voir ça aussi dans le rapport avec les musulmans. D'un côté, oui, ils sont intolérants, horribles, blablabla. Mais de l'autre côté, l'intolérance à un haut niveau ici. On dit, dans le libéralisme permissif, à la fin, presque tout est interdite. Par exemple, je fais beaucoup d'études de relations sexuelles, relations pratiques de séduction. Presque tout qu'on fait peut être proclamé un harcèlement, non? C'est Naomi Paklein, mais Wolf, l'autre féministe, qui faisait une remarque très correcte. Elle a dit que, selon les critères les plus stricts, politiquement corrects, il n'y a qu'un type de relation sexuelle qui est totalement hors harcèlement, c'est le contrat sadomasochiste. Là où on fixe des choses à l'avance, pas de danger, tout autre.
Tout est codifié.
Oui, oui, je trouve ça assez triste.
Surtout à cette heure-ci du
pour
matin.
Pour le dire comme ça, non?
Slavoj
Žižek. Je deviens presque un staliniste. On doit combattre ça avec la vigilance révolutionnaire.
Avant de savoir si vous êtes stalinien ou pas, Slavoj Žižek, d'un mot, et nous y reviendrons, en quoi le fait de rester, comme vous le dites, marxiste, vous a aidé, vous a agi pour écrire les réflexions blasphématoires suite aux attentats du mois de janvier en France?
Bon, pour y aller très vite, comme je dis.
Oui, parce que nous y revenons dans le débat. Mais
oui, oui, oui.
Pour comme comprendre
je
déjà.
Je suis voilà. Marxiste, même communiste, c'est pas
dans le sens du
20e siècle. Ouais. Oui, je dis seulement ça pour la formule élémentaire. Bien sûr, la gauche du 20e siècle, la gauche social-démocrate, la gauche communiste, etc., c'est fini. Ça n'a pas marché. Bien qu'il y avait quelques résultats, je sais. Mais le problème reste. Je crois qu'il y a toute une série de problèmes. Par exemple, écologie, de nouvelles formes d'apartheid, même le problème économique de propriété intellectuelle. On est là presque dans le communisme. Tous les films, on peut les obtenir par ordinateur ou biogénétique. Je vois là, même Fukuyama lui-même n'est plus, disons, fukuyamaïste à cause de tout cela. Donc je vois simplement toute une série de problèmes très graves et je ne veux pas comment on peut les confronter dans le cadre de capitalisme libéral.
Donc retour à Marx. Actualité de Marx.
Actualité, oui. Hein? Non. Bon.
Et de Lacan, quand même.
Je dis même qu'on doit revenir Marx à Hegel. Yeah. Marx, pour vous donner une formule très simple. Le rêve de Marx, son idée du communisme, c'est encore pour moi capitalisme sans capitalisme. C'est-à-dire toute la dynamique capitaliste, mais magiquement, sans la forme du capital. Ça ne marche pas.
Dites, Slavoj Žižek, je vous vois, je vous décrivais tout à l'heure comme un joueur de foot, pardon, mais j'aurais dû vous décrire comme une rockstar. Vous avez pensé à chanter votre philosophie, à monter sur scène?
Je veux vous dire quelque chose qui peut vous surprendre. Jamais dans ma vie, je n'ai ni chanté, ni dansé. Je ne peux pas le faire, c'est trop obscène.
D'autres l'ont fait pour vous.
Ça, c'est une très belle idée. C'est dommage qu'on n'a pas de temps. C'est l'idée que j'ai une très belle de ce que mon ami, un philosophe autrichien, Robert Faller, a appelé interpassivité. Vous... C'est pas que l'autre font le travail pour moi. Les autres peuvent jouir, croire pour moi. Alors... C'est comme ça. Aujourd'hui, on est dans une étape cynique.
Vous connaissez ça, Clemens Sklavonia. Slaconia, je vais y arriver.
Je sais. C'est un ennemi du peuple qui sera...
Il vous imite, il cite de vos textes et il s'est déguisé en Žižek.
Non, c'est même un geste amical.
Mais bien sûr.
Oui, mais quand même j'ai des problèmes staliniennes, là, on ne se moque pas des camarades Staline.
Voilà. Mais on va se moquer de Žižek, allez, quelques secondes. And he says, but I got him. His balls are full of dust. Well, in reality, we only dirty with dust. The balls are those in power. And now comes the dirty conclusion. The point is to cut them off. Vous venez de me menacer de 2 ans de camp de rééducation, c'est ça? Non?
Non, mais pas goulag, que je suis un humaniste. Camp de rééducation. Se lever à 4h30.
Pour Brice, il en faudra une bonne vingtaine au moins.
Vous savez, se lever à 4h30, il le fait déjà. Donc, il est déjà en camp de concentration, le malheureux Marc.
Je me lève à 2h30.